Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio FMR, nous sommes le samedi 6 octobre 2007, et il est exactement midi.
FMR est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
suivi de...
du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et l'infirmerie.
Et ensuite,
à 15h, scène transmission, 16h, le potager, 17h, Big Bang, 18h, vie d'ordure, 19h, on est chez nous, 20h, la CTO expérience, 21h, 39, love. Et maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, TV, et pub, TV et sabotage. Thomas, tu ne mourras pas sur ce coup-là. Bonjour et bienvenue, bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour Inflammé de mon cœur. Merci, c'est elle qui avait le bouquin dont on va parler tout à l'heure en film, mais le bouquin a changé plusieurs fois de nom, vous allez voir, vous en comprendrez pourquoi tout à l'heure. Ce sera pour la partie pour Thomas. La semaine dernière, nous étions pas là, mais nous avons fait émission.
Et oui.
L'émission a été faite et diffusée sur le podcast et en stream, et elle a été ensuite diffusée en cours de semaine sur la radio. Si vous l'avez manqué, il suffit d'aller sur supplément week-end, sans tirer, sans accent, suppléments-weekend.tk. Vous mettez cette adresse dans votre navigateur web et vous allez tomber dessus, il n'y a aucun souci. Oh oui, vas-y. Smile. Don't smile. Smile. Don't smile. Smile. Don't smile. Des phases. The Mambo Craze. You are Craze. Remix Radio. Supplément week-end spécial 99 francs. Et extrait, je crois que c'est dans la bande originale du film, je ne suis pas sûr. Donc, Des Phases, Mambo Craze. parce qu'ils écoutent beaucoup Radio Nova. Heureusement, c'est une radio qu'on n'a pas sur Toulouse. C'est peut-être pour ça que j'étais si mauvais que ça, comme concepteur, rédacteur en publicité.
Pourquoi mauvais? C'est juste les produits sur lesquels tu bossais qui étaient... Bon, bref.
Ouais, mais bon, je t'ai pas aussi bien payé qu'Octave. Merde!
Combien il gagne, lui?
Il l'a passé, ouais, il l'a passé en euros, mais je crois qu'il dit que c'est 13 000 euros mensuels.
Oui, voilà.
Après, on lui propose un poste à 25 000, donc avec bagnole de fonction, appart de fonction, pute de fonction et tout ça. Enfin bon. Bonjour, Duce, j'espère que tu vas bien.
Ah, il nous montre sa casquette, alors j'arrive pas à reconnaître l'écusson.
Moi, je vois l'écusson Nike, hein, mais c'est pas ça.
R, C, P. Non, P, P, C, c'est ça? Non?
Bon, allez, abrège.
Champion Race. Quoi?
Attends. Attends, du sport, là, on comprend.
Ah!
Ah, les Écossais!
C'est les Rangers? Non.
Yeah. Bah, tu sais, si on parle entre nous de sport, je vais te dire que moi ce matin je trouvais un moyen efficace de réveiller mon petit cœur. Hein.
Magate! Magate!
Un AK au matin, tu vois, sur le lit, c'était pas mal. Mais ça sent la branlée ce soir, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça n'est pas le sujet. Donc Thomas, tout à l'heure, va nous parler de 99 francs. La semaine dernière, donc, vous n'avez pas pu nous écouter si vous nous écoutez exclusivement à la radio en direct. Mais donc, l'émission est disponible sur le site internet avec les rubriques écrites et tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est supplément week-end, tout attaché, sans espace ni rien, sans accent. Supplementweekend.tk dans votre navigateur web. Vous mettez ça et vous allez tomber directement dessus. Sinon, si vous allez sur le site de la radio, radio-fmr.net, c'est dans la colonne de gauche dans les brèves. Il y est donc encore. On avait parlé des démons d'Alexia, le tome 4, le syndrome de Salem, de R.C. du Gommier, c'était chez Dupuis. Moi et CDM, Cosmic Roger, le tome 5, les 12 travaux de Cosmic de Roger chez Fluide Glacial, et Thomas a beaucoup apprécié d'ailleurs.
Quelques gags rigolos.
Ouais. Ouais. Mark Wade, Lane Francis Yu, Superman, droit du sang. C'est encore un reboot autour du personnage de Superman, du sport approuve d'ailleurs. Je sais pas s'il a quelque chose à dire, c'est dans la collection DC.
Il l'a pas lu, c'est moi qui l'ai.
Panini Comics, d'accord. Et point de vue cinéma, on avait parlé de La Vengeance dans la peau. On avait aussi prévu la semaine dernière, si on nous avait laissé faire notre émission dans les conditions normales, de inviter l'association PD Rose, une association qui a décidé de faire un festival BD sur Toulouse. Comme quoi, il y en a. Ça commence à se monter de plus en plus. Hein. On en est à 4, 5, 6 festivals de BD sur Toulouse. C'est pas trop tôt. C'est un festival BD qui a lieu en ce moment, aujourd'hui et demain, à la salle Mermoz, qui est en face du stadium, au profit des enfants handicapés. Donc l'entrée est libre. Mais si vous voulez une dédicace, vous donnez une somme symbolique qui commence à partir de 1 euro à l'auteur. C'est-à-dire vous ne payez que si vous avez votre dédicace, vous êtes bien content. Et donc c'est reversé à l'association Kiwanis International. C'est une association caritative, donc en la faveur justement des enfants handicapés à travers le monde. Et donc parmi les invités sont forcément présents, et après je ne sais pas s'ils sont tous, il y a Le Reculé, qui est le dessinateur de la série Arthur, qui est une série qui est sortie chez Delcourt, dont on avait parlé à propos de la spéciale Camelot, puisque c'est une vision très proche en fait des légendes celtiques originelles autour du roi Arthur, et c'est une vision assez noire en fait, hein. La version d'origine est plutôt rentre dedans et sanigolante. Il y a Marc Guessant qui est le dessinateur. Oh, allez, on le dit. Hein.
De Arthur et les Minimoys.
Voilà. Il n'a pas fait que ça, heureusement.
Non, heureusement, non.
Heureusement, loin de là. Sont aussi présents Christian Doubé, Ced, Fred Coconut, s'il vous plaît, qui est quand même un des piliers de Metal Hurlant. Richard Di Martino, Régis Dosminoni, Gobi, Hugues Labiano, Simon Léturgie, qui c'est Spoon and White, voilà la dernière série qu'il a dessinée. Pierre Voynet, Jean-Luc Masbou, Sandro, Alexis Antenac, Turf, Ulcé. Turf, c'est ce Turf fait notamment le roi des fous. Il y a des planches originales qui sont en vente aux enchères de Zep, de pas mal de dessinateurs prestigieux. Donc c'est plutôt intéressant, c'est organisé par le festival BD Rose. C'est aujourd'hui et demain, c'est ouvert de 10h à 19h. Voilà, l'entrée est gratuite, mais vous êtes prié de laisser une participation symbolique pour les dédicaces d'au moins 1 euro. C'est en faveur de l'enfance handicapée. C'est une très belle cause, c'est pour ça qu'on en parle. Supplément week-end sur Radio Éphémère, il est midi et 11 minutes. On va entamer rapidement des news. Six importants fonctionnaires du ministère de l'Agriculture japonais ont été réprimandés pour avoir édité des articles de la Wikipédia pendant leurs heures de bureau. Alors habituellement, on fait ça en catimini, on se dit « Ouais, je vais pas être pris par les administrateurs système, je vais détourner le proxy et tout ça. » Ou bien « Non, je vais l'éditer seulement dans Word et puis je vais le sauver sur ma clé USB et puis je mettrai en ligne au bureau. » Non, là, ils l'ont fait à la maison. Là, ils l'ont fait au bureau, la mise en ligne et tout ça, pas très fin. Alors, des médias japonais se sont rendus compte. Il faut dire qu'il y a un logiciel qui est sorti qui permet de savoir qui édite l'encyclopédie collaborative et ça a permis de voir que pas mal de très grosses boîtes supprimaient des articles ou mettaient en fait des textes en leur faveur. Bref, ils se sont dit, mais est-ce que les ministères japonais font justement un travail de correction dans la Wikipédia en japonais? Eh ben, malheureusement, ça s'est un petit peu vu. Donc pour 6 de ces officiels du ministère de l'Agriculture japonais, 406 articles très peu en rapport avec l'agroalimentaire furent édités pendant les heures de bureau au ministère. Et l'un de ces bureaucrates a ainsi édité 260 articles concernant Gundam. S'il vous plaît. Alors Gundam, je rappelle que c'est des gens qui vont sauver la planète en enfilant des grands robots spatiaux, etc. Qu'on a fait des shoot 'em up, qu'on a fait pas mal de robots, puisque c'est Bandai qui est derrière, des robots jouets. Et qu'en général, c'est soit un truc de collège, soit un truc de ce que l'on appelle les otaku pur jus. C'est-à-dire les mecs qui n'ont plus aucune vie sociale à 35 ans, c'est-à-dire qui ne parlent même plus à personne et dont l'appartement, le petit appartement, qui doit être à peine plus grand que le studio de la radio, est complètement rempli de collecteurs autour de Gundam. Le ministre a déclaré aux médias, le ministère de l'Agriculture n'est pas en charge de Gundam. Je rappelle quand même qu'il y a le ministère des Affaires étrangères qui lui est un otaku et qui l'a avoué. Donc, point de vue crédibilité, ouais, ok. Je doute que le fonctionnaire en question ait été muté au ministère de l'Industrie, le fameux MITI, ou à la Sécurité des Forces Armées. En tout cas, l'info est sortie hier et elle était assez amusante. Complètement à part et n'a pas grand chose à voir, c'est dans Le Monde, daté de samedi, celui avec le supplément Le Monde 2 et qui est donc est sorti ce matin pour ceux qui nous écoutent en direct à l'antenne, et ben est proposé en bonus un album de Black et Mortimer, un bel objet en plus cartonné, d'eau toilée, vraiment une belle bestiole du sport. Tu l'as vu le secret de l'espadon là, je le vois dessous là, tu l'as
oui, pas. Oui.
Franchement, c'est un chouette truc. Hein.
Ah, absolument. Ouais, j'ai découvert ça en kiosque hier, tout à fait par hasard.
Et tu l'as acheté ?
Non, j'ai pas encore acheté.
Ah bah celui-là c'est cadeau, tiens, zouf. Parce que moi, je l'ai en dos toilé aussi, mais en intégrale.
Ouais, mais ça a l'air pas mal, surtout que bon bah le premier numéro là est à 4,90€, donc
voilà. C'est le premier numéro. Ouais. Les samedis suivants, c'est à 8,90€. Et normalement, l'édition du Monde avec le Monde 2.
Ah, c'est avec le Monde ?
Oui, c'est avec le Monde. Et avec le Monde 2, ce sera à 2,90. Bon, 8,90, sachant que c'est à 11 euros normalement en librairie.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ça coûte combien en librairie, quoi? On doit, être gagnant quand même, non?
Nos copains BD libraires vont plus être copains du tout si on fait la pub dedans. Alors, la collection fera 12 albums, ça va jusqu'au deuxième tome des trois formules du professeur Sato, et c'est pour les 20 ans de la disparition de Edgar Pierre Jacobs, qui nous a quittés donc en 87.
Ouais, il faut dire que pour aider un petit peu les libraires, il faut dire bon, s'il faut se taper également le Monde et tout, quoi, c'est pas trop intéressant, quoi.
Oh, t'es méchant, parce que, primo, le journal Le Monde a fait un très joli clin d'œil dans son titre à la collection qu'ils éditent, puisque en fait ils ont entouré à la craie le M du Monde et mis en jaune, référence à la
marque jaune.
Ça, je trouve que c'est rigolo, et à marque jaune, mais surtout à M le maudit, hein, il faut le rappeler à l'origine. Le premier album et la première partie du Secret de l'Espadon, et surtout un gros dossier sur la série dans Le Monde 2, avec parmi les intervenants un Jacobophile qui fait son bootcom, pas mal d'articles qui datent un peu, hein, Yves-Marie Labbé, son article date de 96, pardon. Il y a Thierry Grostens, l'article est écrit en 87 pour la disparition de Jacobs, donc c'est pas mal de reprises mais avec de belles illustrations. Et donc, qui est cet homme politique qui avoue qu'il est un jacobien, jacobophile?
Alors, un petit quiz.
Hubert Védrine. Eh ouais, je ne savais pas que le ministère des Affaires étrangères était aussi en charge de Black et Mortimer. Voilà. On va entamer de suite la bande dessinée, on va commencer Zou. Et midi 18 minutes sur Poubelle des radios éphémères 89.1 MHz. On va commencer avec Biotope. Le deuxième tome vient de sortir dans la collection Poisson Pilote, ce qui nous a un peu surpris, chez Dargo. C'est une série par Apollo et Bruno, notamment, qui avait fait plusieurs albums. On va pas revenir, il suffit d'aller sur le site du supplément Weekend. On vous donnera toutes les références en question. Et on revient en fait je vous rappelle qu'à la fin, pour ceux qui l'ont lu, à la fin de Biotope, donc Biotope est une planète qui est en cours d'observation par une station scientifique terrestre. Et en fait, c'est une planète qui est absolument vierge de tout contact humain et qui a une vie extrêmement riche et florissante. Et les humains sont installés pour observer, pour analyser, etc. Et il y a eu un meurtre, il y a eu une histoire amoureuse qui a très mal tourné, et trois flics sont arrivés sur la station de Biotope pour enquêter sur ce meurtre. À la fin du premier tome de Biotope, la station d'observation a explosé, elle a été détruite volontairement par ses propres occupants. Un violent conflit entre les deux catégories de scientifiques qui vivaient dans cette base terrienne isolée. Ce venu pour étudier le vivant, le climax intact de cette planète absolument vierge, et les géologues qui eux préparent l'exploitation ultra intensive de la planète qui va la détruire, à coup sûr, comme la planète Terre fut épuisée. Au milieu des combats, les trois flics n'étaient que de passage, connurent des destins différents. L'angevin est mort. Eunice, la belle Black, est partie avec les insurgés quelque part sur cette planète. Le commissaire Toussaint est tombé d'une navette quelque part au milieu de cet enfer vert. Cet homme qui n'a connu que la modernité, qui est quand même dans sa cinquantaine bien tassée, les mégapoles de la Terre, se retrouve ainsi aéré, seul au milieu d'une nature dont il ne connaît rien, sans eau ni nourriture. Même si la planète Biotope a vaguement l'aspect d'une forêt vierge, elle est totalement différente de la Terre. Quelles plantes sont consommables? Quels insectes sont mortels? Quels microbes y pullulent? Alors, le commissaire Toussaint ne sait pas exactement combien de temps il peut espérer survivre sur cet environnement. Même les ruines de la base biotope sont déjà en cours d'assimilation par le milieu naturel de la planète. Et avec le temps que mettra la Terre pour s'inquiéter et envoyer des secours, c'est-à-dire, bon allez, en moins 2 ans, il mourra de faim à coup sûr. Il va tomber sur Doc Alex, un biologiste doudingue qui a fait le pari insensé de vivre au milieu de la forêt et de s'en nourrir. Et ce dernier a une théorie étonnante. La forêt de biotope est vouée à disparaître très rapidement, avec ou sans les humains. En janvier dernier, je m'étais exprimé de ma surprise, parce que c'est un très très bon polar de science-fiction, mais il est publié dans une collection humoristique. Poisson Pilote avait surtout pour vocation, en fait, de relancer l'esprit de la revue Pilote des années 60-70. L'ambiance est assez noire, délétère, et n'a rien de franchement de second degré. En fait, il n'y a pratiquement pas de blague dans cet album. Espérons que cette erreur de classement ne nuise pas à un succès qui est vraiment mérité. Biotope, le second tome donc de cette série d'Apollo et Bruno, est sorti dans la collection Poisson Pilote chez Dargo, et c'était eux qui avaient fait notamment Harlem.
Oui, enfin moi il faudrait quand même que les dessinateurs fassent un peu gaffe à ce qu'ils font, parce que au début là, quand il y a le commissaire Toussaint qui est tout seul dans la jungle, sur une case il a un t-shirt sous la chemise, après il disparaît, après il revient, après il disparaît. Je veux bien que ce soit une erreur de raccord, mais en BD ça le fait moyen quoi.
Ouais, c'est vrai. N'empêche que peut-être qu'il fait comme moi. À moitié dans le pantalon.
Oui, peut-être. Mais bon.
Continuer sortie BD avec le journal de Camilla. Le deuxième tome vient de sortir chez
Camilla.
Merde. Ah d'accord. Ok. scénario de Loris Muraille, dessiné par Laurel. C'est chez Vent d'Ouest. Carmilla expliquait dans le premier tome, dans son journal intime, je rappelle que Laurel a un blog, elle, donc elle a un journal mais pas intime, elle expliquait dans le premier tome comment elle avait réussi à mettre le grappin sur Jonathan et la naissance d'un petit frère. Un petit frère prénommé Christopher Bella Vladimir. Et oui, le père est un grand fan des films de vampires. Frustré par Jonathan et le comportement des garçons en général, Carmilla a décidé de prendre en main l'éducation de son petit frère avec la complicité de sa sœur et de ses meilleures copines. Car les filles sont confrontées à un double souci. Tous les grands écrivains, les grands peintres, les grands scientifiques, les grands politiques, les grands footballeurs, les grands couturiers, les grands cuisiniers sont des hommes. Que reste-t-il alors aux femmes ? Ah, je cite ce que dit la petite sœur. Il nous reste Miss France, Pom Pom Girl, natation synchronisée. leur deuxième angoisse concerne ce que leur disent leurs profs. C'était mieux avant, là chaque génération est de plus en plus nulle, le niveau général est de plus en plus mauvais. Il est vrai que l'insulte à la mode chez les jeunes en ce moment, c'est un télo. Et que se faire offrir un livre sans image, ben, c'est la pire des hontes. Ah ouais, c'est plus que la crise de l'adolescence là, c'est le désespoir d'un avenir. Alors quelle est cette fameuse espèce en voie de disparition qui est sujet dans le titre ? Eh ben c'est le mec. Eh oui, c'est le mec. Le garçon brave, courageux, héroïque, chevaleresque quoi. Carmilla va-t-elle réussir ?
C'est Christine, bravo.
Ouais, pas mal. Carmilla va-t-elle réussir à métamorphoser son Jonathan en amoureux de compétition ou à parfaire l'éducation de son petit frère à l'insu de ses parents ? Les histoires sont très mignonnes, mais pas si gnangnans, assez étonnamment. Le graphisme léché, tout en douceur. Bref, on s'attache à ces personnages attendrissants, on adhère à leurs idées, on compatit à leurs angoisses. C'est une lecture intelligente, parfois à plusieurs niveaux, avec un humour très fin, contrepoids à la méchanceté de la série Les Nombrils. On remarquera un petit clin d'œil à Lune Rousse, la blogueuse BD dont nous avions diffusé l'interview en juin dernier d'ailleurs. Loïs Muraille et Laurel. Loïs Muraille fait le scénario, Laurel dessine. Le journal de Carmilla, une espèce en voie de disparition, c'est chez Vent d'Ouest.
On disait que Laurel était une blogueuse. Si vous voulez aller voir son blog, il s'appelle le Un crayon dans le cœur. Vous tapez ça sur Google, je sais plus l'adresse exacte, sur être.com.
On mettra le lien en commentaire de l'émission, je pense.
Voilà. C'est la fameuse fille avec un chapeau en forme de peau de vache dont Boulet en parlait dans un des derniers billets qu'il avait fait. C'était une fille qui parlait beaucoup de sa fille Cerise et de ses seins.
C'est pas vrai, il recule pas ce lecteur CD. C'est de plus en plus catastrophique la réalisation sur Radio.
Mais ça fait un bout de temps qu'il recule pas. Hein.
Oui, mais. Ah d'accord.
Fais le tour.
Non, il plante. Il n'arrive pas à lire le morceau en question. Bon.
Oh là là là.
Un disque pourri.
Non, le disque n'est pas pourri. Il a très bien marché sur votre lecteur et chez moi. Yuki Ujuru Shibara. Le troisième tome de Mushishi vient de sortir dans la collection Big Kana chez Kana. Quoi, je me suis planté là ?
Non.
On suit les pérégrinations dans le Japon médiéval de Jinko, jeune homme aux cheveux blancs et à un seul œil, puisque dans le premier tome on a appris comment il a perdu son œil, volontairement, assez étonnamment. Un aspect effrayant. Mais pas moins que son don, Mushishi. Ça veut dire qu'il voit des mushis partout. Des esprits primitifs que très peu de gens peuvent percevoir et qu'on pourrait abusivement comparer à des fantômes, des fées, des démons. Mais ces êtres n'ont en fait aucune conscience, aucune volonté réelle, sinon que celle de vivre. Le problème, c'est qu'elles interfèrent avec des animaux les plus évolués, les humains. Ils peuvent avoir plusieurs formes, prunes, obscurité, grains de riz, pierre, anguilles, rouille, caractère d'écriture. En temps normal, ils vivent leur vie et n'embêtent pas les autres. Mais il arrive qu'ils se développent trop ou au mauvais endroit. Et quand personne n'a d'explication, seuls ceux qui voient les mushis ont une partie de la clé de l'énigme. Jinko est là justement pour sauver les humains et pour réparer l'erreur qui fait que les mushis et les humains sont en train d'interférer. Ce sont des histoires fantastiques, pas franchement terrifiantes, mais avec une atmosphère bizarre entre les contes horrifiques et les histoires de rebouteux. C'est... Comment dire ? Le dessin à l'encre, les aquarelles, les couvertures, certaines pages intérieures sont en couleur, en fait, dans des aquarelles très fines. On est dans une ambiance éthérée entre deux mondes et l'absence d'action violente, puisque le Mushishi mène des enquêtes, donne une impression d'un calme assez troublant, en fait. Mushishi, le troisième tome de la série de Yuki Urushibara, vient de sortir en français dans la collection Big Kana, chez Kana. Ça m'apprendra à ne pas me suffisamment m'en relire. C'est Thomas.
Oui, c'est moi.
Mon binôme, c'est ma chose. Il m'appartient. Il va vous faire la chronique cinéma après la publicité parce qu'il est pile midi et 30 minutes sur Radio FMR.
Dans la publicité, on n'a pas de curriculum vitae. On a un book ou un dos. dans la publicité, parfois, il faut coucher pour y arriver. Mais parfois, non. Dans la publicité, quand on mange un yaourt, on pousse des petits cris. Comme si on avait un orgasme. On y croit. Dans la publicité, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de noir, pas de blanc, pas de riche, pas de pauvre. Il n'y a que des minorités à fort pouvoir d'achat. On appelle ça aussi des cibles. Dans la publicité, on a tous des baskets. Quand c'est la mode, des baskets. Dans la publicité, on dit qu'on travaille dans la com. Dans la publicité, on ne montre pas beaucoup de vieux. Parfois, exceptionnellement, on montre des seniors, mais c'est pas pareil. Eux, ils consomment. Dans la publicité, il faut pas être talentueux. Il faut avoir des connaissances. Et pour avoir des connaissances, il faut être rigolo et faire des blagues en parlant fort. Dans la publicité, ce qui nous différencie des artistes, c'est qu'on n'est pas des artistes. Dans la publicité, un déodorant ne pue pas. Il sait révéler la force de son caractère. Ce qui n'est pas pareil. Dans la publicité, il y a plein de directeurs. Il y a le directeur artistique, le directeur conseil, le directeur de clientèle, le directeur de prod, le directeur de création, le directeur financier, les autres. C'est des stagiaires. Dans la publicité, on a le droit de mettre les pieds sur la table, parce qu'on est dans la publicité. Dans la publicité, nos voisins de bureau sont des créatifs, des planeurs, des TV prod, avec qui on fait des briefs et des plans-boards, des PPM, et c'est génial. Dans la publicité, pour susciter le désir de la consommatrice, on lui met des filles nues parce que dans la publicité, on n'est pas une contradiction près. Dans la publicité, on se tutoie parce que de toute façon, on n'a jamais vu quelqu'un de 22 ans, vous voyez quelqu'un de 23 ans.
C'est un montage en fait d'une vraie agence de pub, Alice Law, et comme toutes les agences de pub, elle fait de la pub en fait pour se vendre elle à des clients, et des clients qui sont que sur Paris, donc on les a pas entendus à Toulouse bien évidemment, parce qu'à Toulouse, que voulez-vous, on n'est que des bouseux, c'est bien connu. La promo exceptionnelle sur les prix bas vous est présentée par Thomas en Dolby Mono Surround, son THX 16/9e. Bonjour Tom.
Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de 99 francs. C'est le film de Yann Kounen avec Jean Dujardin, Vaina Diocante et Elisa Tovati. Concepteur-rédacteur Octave Parango travaille dans l'une des agences de pub les plus courues de Paris. Comment elle s'appelle déjà?
La Rosse. La Rosserieur and Wishcraft.
Entre l'autosatisfaction permanente et le dégoût de soi, la chute et les brainstorming interminables, il nous prie de le suivre pour une visite guidée dans l'univers de la... dans la publicité. Donc c'est adapté du roman de Frédéric Bédé, je crois être l'un des rares, à ma connaissance, à ne pas l'avoir lu.
Donc c'est vrai qu'à l'époque je l'avais pas lu parce qu'il y avait eu trop de battage. Donc 99 francs qui est passé à 14,90€ et donc maintenant il s'appelle 6,20€ dans cette édition, mais à la Fnac il est à 9,99€.
Donc ok.
Un titre, voilà, donc c'est un titre qui varie, donc c'est très drôle. Et c'est vrai que c'est ce qui a révélé Frédéric Bédé. Faut savoir qu'en fait il y a un personnage qui s'appelle Marc. C'est dans le 3e ou 4e chapitre, passe-moi, où en fait il dit oui, c'est donc le narrateur raconte qui est son directeur de la créa, qui il l'aime, etc. Et il décrit que le mec est vachement cynique, il dit toujours écrire, toujours accepter le pognon de l'agence pour écrire ton bouquin qui doit détruire notre business. Oui, c'est mon mentor, il écrit des nouvelles, il est publié, il écrit des chroniques littéraires dans des magazines à scandale, il passe à la télévision. En fait, c'est Frédéric Becbédé.
Dans le futur.
Dans le futur, voilà. Oui, exactement.
Entre-temps, il faut dire que Becbédé a présenté son émission sur Canal Plus, la chaîne branchouille par excellence.
Oui, c'est bien planté parce que dans la pub, on ne plaît pas aux ménagères, on plaît aux 20 personnes qui sont vos clients.
Voilà,
donc il a fait une émission qui ne plaisait en fait qu'à ses clients.
Il avait fait également une émission avant de faire cette émission sur Canal+, il avait fait une émission littéraire sur Paris Première qui était pas trop mal, hein, qui était pas trop dégueulasse parce qu'elle sortait un petit peu des sentiers battus. Il y avait même une émission spéciale à poil, où ils étaient tous à poil.
Même lui,
hein, enfin tout le monde, hein, les avec des spectateurs et tout. Il avait introduit quelques petites nouveautés, quoi. Ça fonctionnait assez bien quand même. Mais bon, vu que la chaîne cherchait à surfer sur le succès passé d'une des premières émissions cultes de Paris Première, hein, qui était au côté des Dernes avec Jean Edernalier, hein, qui était vraiment un monument du genre, qui avait lancé un petit peu la chaîne Paris Première en fait, hein, parce que bon, bah, c'était vraiment impertinent, enfin l'impertinence à la Jean Edernes, hein,
on balance les bouquins, c'est de la merde,
ouais, c'est de la merde et tout. Ça a moins marché de toute façon, et puis bon, je pense que Bec Bec Day, au bout d'une saison, on a un petit peu marre un petit peu de la formule qui n'évoluait pas trop, bon, on lui laissait pas trop les coups des franches, il a préféré aller voir un petit peu ailleurs.
Donc le film, bah, effectivement, c'est un spot publicitaire géant, hein, puisque il adopte justement la forme des produits et le système de fabrication et de vente au public qu'il est en train de décrire. Donc c'est un spot de pub géant. Il y a même une trouvaille dans le film où il montre le packaging du film et la future sortie DVD dans le film. C'est attention, vous allez pas y échapper, vous allez avoir le DVD après. Alors dans un packaging absolument atroce. C'est du discount à 100%, voilà.
Excusez-moi,
qu'est-ce que tu veux faire là?
Xav qui s'amuse tout seul de son côté là.
C'est du Laurent Garnier, qu'est-ce que tu veux?
Et d'ailleurs, ouais, pour, ouais, je parlais du packaging et tout ça. De toute façon, ça va nous amener à un final, mais d'anthologie qu'on ne spoilera pas ici, qui est génial, qui est énorme. Le final, je pense que tout le monde va s'en rappeler dans les 5 prochaines années. C'est une grosse trouvaille, totalement en adéquation avec le sujet en tout cas. Alors après, ben en fait, c'est Yann Kounen donc qui dirige cette adaptation. Il faut savoir que le projet était passé entre les mains de Antoine Decaune, dont il voulait donner le rôle titre à Edouard Baird, enfin le rôle principal en tout cas, Mathieu Kassovitz. Il faut savoir que Frédéric Becbédé avait demandé à ce que le réalisateur de l'adaptation cinéma soit issu de l'univers de la pub. Donc,
c'est un peu obligé, oui.
Voilà. Et il y a même eu Becbédé lui-même qui avait pensé un temps faire l'adaptation lui-même. Et en fait, c'est Yann Kounen, donc le réalisateur de Doberman et de Blueberry, entre autres.
Un Blueberry qui était déjà très halluciné avec des scènes que pas mal de gens ont trouvé insupportables parce qu'il a fait un Blueberry manière Moebius avec des longues scènes complètement psychées et tout ça.
Voilà. Un Blueberry qui n'était pas du Blueberry, en fait.
Ouais, voilà. Moi,
C'est plutôt un Jodorowsky là, non?
Oui, tout à fait, d'ailleurs. Bah, là, il s'est entraîné pour 99 francs et on retrouve d'ailleurs une partie des effets.
Oui, les effets, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi ses obsessions, puisque de toute façon, ce qu'on peut se dire dans une adaptation comme ça, c'est que le réalisateur Yann Kounen, bon, il a son univers à lui, bon, le film quand même s'adresse à un public beaucoup plus large, tu te dis, bon, il y a quand même ses obsessions et son univers visuel qui va un peu passer à la boulinette du film qui a malgré tout quand même été vendu sur TF1, etc., pour la campagne promo. Mais en fait, pas du tout, puisqu'on retrouve justement les obsessions du réalisateur de Blueberry, avec notamment des tripes hallucinogènes, mais surtout son obsession pour un gars occidental dans la culture urbaine et tout, d'aller un peu se ressourcer, se redécouvrir dans une peuplade un peu sauvage. Et ça, on retrouve aussi ça dans le film, et c'est totalement un film de Yann Kounen, mais à 100%, c'est ça qui est aussi le gros point fort du film.
D'ailleurs, tu as remarqué la scène avec les étiquettes?
Avec les étiquettes.
Au tout début, quand il s'habille.
Oui, tout à fait.
Tu as vu, alors je crois que c'est la 3e étiquette en bas, ce qui avait marqué.
Je m'en rappelle plus.
J'ai totalement pompé ce plan à Fight Club.
Oui, bah oui. De toute façon,
fallait être rapide pour lire.
De toute façon, le film est une grosse référence à Fight Club par rapport à la narration de quand il y a le personnage de Jack qui parle, qui dit oui, cette table du Yin et Yang, il fallait absolument que je me l'achète, la télé, c'était mon paradis, tout ça. Et justement, avec des descriptions comme tout son appart venait de chez Ikea, et donc il reprend un peu le même principe justement pour décrire la vie de Octave. Et donc voilà, on a une florilège de scènes absolument dantesque. On va pas tous les énumérer, d'ailleurs c'est pas le but, mais
c'est pas l'intérêt, il faut vraiment aller le voir sur grand écran.
Vous avez aussi une parodie un délire parodique autour de Solomon de Tom Hanks, revu à la sauce Octave. Et puis surtout, le moment de bravoure du film, c'est quand même Octave qui s'adresse à la famille de Kinder Chocolat. qui est dans son trip évidemment, qui dit non mais vous
j'ai marqué 3 buts.
Voilà, mais des buts de quoi? Du foot, du water polo, vous savez même pas. Moi je suis synchrone, regardez, j'ai un micro, vous êtes des Danois, vous êtes doublé en français, ça va pas du tout.
En fait, il fait un mauvais trip, mais c'est pas de Saint-Simia comme dans ce disque, c'est quelque chose de largement plus fort et c'est la mise en situation en fait de méthodes de tournage de cinéma. C'est-à-dire en fait qu'on inclut dans la scène en fait ce qui est vraiment la machinerie du cinéma et ça a hurlé de rire.
Même
quoi,
si c'est... ce procédé a déjà été utilisé dans d'autres films. Là,
Scrubs c'est hier.
Dans d'autres films et surtout que bon voilà c'est à ce point-là le procédé est vraiment utilisé à 150%, c'est ça qui fait plaisir aussi. Au point de vue de la forme, dont Yann Koonens à travers ses courts-métrages comme Gilles Kerosene ou des trucs comme ça, on voyait quelqu'un qui expérimentait pas mal dans des délires vachement trash et vachement super rapido et tout. Et là on retrouve ça, il y a un passage en dessin animé qui est énorme, il y a un peu trop d'effets par moment puisque bon de façon il prétend pas être ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que c'était quand même un produit de consommation qui essaie de racoler le plus large. Donc il y a des moments où on voit, bah, il sort avec une blondasse, bon, on la voit sous toutes les coutures. Au moment donné, il y a un passage en clip dans le film. Voilà, c'est après, bon, c'est facile.
Ah, tu veux mon avis?
Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi.
Oui. Et donc voilà, après bon le truc c'est bon, si Octave il est pas content, ben il peut toujours aller justement se retirer dans une partie du monde, mais comme le dit justement la pub que nous avons passée tout à l'heure, et cet extrait justement, ça tombe bien, n'y était pas. Dans la publicité, tout le monde parle de partir un jour travailler dans une association humanitaire, mais en attendant, personne ne le fait parce que le bénévolat voilà, c'est pas encore assez bien payé.
On connaît bien ici.
Bon voilà, c'est un festival de scènes absolument énorme. Et puis bon, si c'était pas aussi galvaudé, j'utiliserais forcément le thème de futurement culte. Mais bon, ça le fait un peu trop parce que tout le monde dit culte en ce moment, donc je le dirai pas. Et je suis tombé hier en préparant l'article sur une critique de West France.
Attends, excuse-moi. 1, 2, 3, multimédia, congé payé, Thomas B, réalisateur.
On avait dit qu'on ne citerait pas
notre ex-employeur.
Donc, j'avais sélectionné une critique de West France qui était passée complètement à côté du film. Moi, j'aime bien aussi rigoler pas mal avec les critiques chopées sur le net.
Ouais, ils sont payés pour moins bien chroniquer que nous.
Oui, voilà. Alors, pour avoir pratiqué cet univers aussi longtemps et abondamment que lui, Yann Koonens était sûrement le cinéaste qu'il fallait pour mettre en image le récit de Beck BD. Mais il le fait trop bien. Dans la structure narrative comme dans la composition visuelle, le récit épouse complètement et à forte dose les tics de ce qu'il prétend dénoncer. Quand c'est une charge et un tout, c'est super pertinent de justement utiliser les tics que tu dénonces. Enfin, c'est une palissade quand même.
Ah bon, c'est feuilleté, marqué en gros, etc.
Un spot d'une centaine de minutes, ça fait vraiment beaucoup à supporter. Ça, on l'avait déjà dit à propos des Wonka Wai, que c'était des pubs pour des parfums, tout. Bah, désolé, c'est son style. Et il ne suffit pas au cinéaste de s'afficher éventuellement dans le second degré ou de finir sur un message moralisateur. Alors dans ce cas-là, on fait plus de films à message en fait. Pour se dédouaner d'une totale complaisance envers un monde qui le fascine plus qu'il ne l'exaspère. Le mec qui fait un film, il va pas faire un film sur un truc qui le fait chier. Forcément, quand un mec comme Andrew Niccol, il fait Lord of War sur le système de la vente d'armes, évidemment que ça le fascine. Un mec qui fait Scarface, forcément, ça le fascine le monde de la drogue.
C'est la fascination du mal.
Voilà, exactement.
C'est ce qui fait qu'un film est bon que s'il y a un très bon méchant.
Voilà. Donc West France, complètement à côté de la plaque. Il faudra qu'on se crée un jingle quand même à force de ressasser les critiques un peu bidons. Ouais,
et puis il faut aussi qu'on le fasse en parlant, qu'il y ait un vrai dialogue, quelqu'un qui lit et toi qui chronique, parce que c'est vrai que ce que dit Thomas, on mettra le lien d'ailleurs dans la chronique de Thomas. Tu l'as publié ce matin, non?
Non, pas encore.
Pas encore, ok.
J'étais un peu à la bourre. Et donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur le film 99 francs, c'est quand même une grosse claque dans la gueule. Après, quand on dit attention, ça vous laisse un goût de merde dans la bouche, impossible de voir après les affiches de pub sans penser au film. Ouais, certes, enfin,
c'est nous, l'intérêt.
On a un regard un peu biaisé puisque Xavier et moi on travaille dans la pub aussi. Enfin, moi ça m'a pas du tout fait cet effet là.
Enfin, plutôt ce que dénonce très sérieusement d'ailleurs là-dessus Beck BD dans le film, c'est le. Enfin. Le film plus que le roman, c'est les spots de merde.
Oui, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que le fait qu'en France, on a une publicité qui est beaucoup plus premier degré que les autres pubs, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit que vous voyez la pub une fois et après elle vous agace. Alors que les pubs anglaises et tout ça, ben justement la dernière pub pour les téléviseurs
Bravia,
tout fait en plasticine, en animation, ben ça c'est le genre de pub, vous avez vraiment envie de revoir plusieurs fois. Alors pourquoi on a des pubs de merde ? Et ben voilà, en allant voir ce film.
C'est vrai que ce qu'il apparaît à la fin du film, c'est que c'est plutôt un délire d'un créatif qui avait des très bonnes idées et qui a été un peu frustré par des vendeurs de yaourts qui disaient bon bah tu fais un spot pour la 35e fois le même et puis tu fais pas chier. Voilà.
Donc c'est plan un peu merde,
un délire d'un enfant gâté, mais quand même assez savoureux. Donc 99 francs. Un film de Yann Kounen avec Jean Dujardin, toujours excellent, Vaina Giocante et Elisa Tovati.
Walking Away par The Egg, extrait de la bande originale du film. Thomas, là, tu es en train de casser quand même ton business, là.
Oui.
C'est pas possible, t'as un début de déprime, là, pour chroniquer un film pareil.
Mais si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne, qu'est-ce que tu dirais ?
Qu'est-ce que tu me dis, là ?
Oui, je te le dis.
Vas-y, j'écoute alors.
Mais j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Très bien, je t'ai entendu et j'ai envie de te dire plusieurs choses.
Vas-y, dis-moi, alors.
Est-ce que tu as de la coquée avec quelqu'un d'autre que moi ?
Oh non, je te ferai jamais ça.
Alors, c'est moi là que tu...
Bah oui, hein.
Mais tu me provoques là.
Mais j'ai rien dit, arrêtez.
Et moi.
Oh oui, vas-y, insulte-moi en allemand.
Ich bin in der Fuhrragen, mein Kartoffel, mit gar gut schukuten, in gross Tafio, de Sigartien.
Y a l'équipe qui est en plateau, là, pour la rubrique télé, là, s'il vous plaît. Là.
Ah ouais,
non, mais pardon, on arrive.
La rubrique télé, alors ça tombe bien, je vais passer du coca à l'âne parce que je voulais pas l'évoquer cette semaine.
C'est quoi comme drogue l'âne ?
Eh bien, je voulais vous parler justement des publicités qu'on peut voir, qui sont maintenant diffusées pendant les feuilletons de nos séries préférées. Moi, une de mes séries préférées, c'est Preuve à l'appui, ça vous le savez, depuis le temps que je vous en parle. Et je me suis amusé justement à ne pas zapper. Pendant les pubs qui passent, pendant mes...
Tu t'es enchaîné feuilletons. Au fauteuil ou quoi ?
Et non, rien que pour voir comme ça, quoi. Et j'étais, je vais pas dire agréablement ou désagréablement surpris, mais j'ai été surpris quand même, parce que bon, Preuve à l'appui, je rappelle un petit peu le concept, hein, c'est une série policière, une espèce de police procédurale, mais qui a comme base le lieu principal, c'est une morgue, hein, donc ce sont... les toubibs, les médecins médico-légaux qui opèrent dans cette morgue, qui résolvent des enquêtes policières. Bon, voilà quel est le pitch de base. Série créée par Tim Kring, bien sûr, et qui, au travers de ses personnages principaux, interprétés magnifiquement par Gillenty, qui est le personnage principal, ainsi que Miguel Ferrer, hein, qui est le patron de cette morgue, mais également les rôles secondaires, hein, qui sont vraiment très très bons, avec l'adjonction dans les saisons, à partir de la saison 3 à saison 4, eh bien, d'autres bons acteurs, à savoir Jerry O'Connell par exemple, Sliders ou voir Leslie Bibb.
Il se tape Denise Richards, c'est enculé là.
Ah ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux quoi. Ouais, mais il passe après Charlie alors bon. Ceci était un aparté. Une série qui, par certains épisodes, peut paraître assez glauque, hein, vu qu'il y a certains épisodes qui sont moins 10, voire moins 12, vu le sujet traité. C'est-à-dire que bon, bah, ça tombe un petit peu dans le glauque. Certains épisodes vraiment bien rentrent dedans, hein, genre l'épisode avec la prise d'otage de Miguel Ferrer par un type qui kidnappe des enfants et qui les élève comme son propre enfant disparu, mais en fait il n'a pas eu d'enfant, c'est l'enfant qu'il était quand il était tout petit, hein, qui était déjà séquestré dans la cave, enfin bon, truc bien glauque. Et on arrive donc à la saison 6 qui est diffusée maintenant depuis 15 jours, 3 semaines sur TF1, tard le soir, le lundi soir vers 23h, 23h20 quand on a de la chance. Et on a une espèce de dérive au niveau de cette série avec quelques passages qui sont franchement soap, c'est-à-dire qu'un climat bien plus enjoué, bien plus sympathique, oui mais pourquoi tu sors avec lui et tout, enfin moi des trucs vraiment très rigolos, et c'est tout à fait logique en fait qu'au bout d'un moment quand on regarde les pubs, eh bien ce sont des pubs qui s'adressent pratiquement uniquement aux femmes. Alors essayez de caler lundi prochain votre télé pour tomber sur la page de pub qu'il y a pendant le premier ou le deuxième épisode de Preuve à l'appui, et vous verrez qu'il n'y a que des pubs pour les femmes. Il n'y a pas de pub pour les voitures, uniquement les produits ménagers, les produits cosmétiques, les produits de toilette intime, ce que vous voulez, c'est uniquement pour les nanas. C'est assez bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Et ça à dire que Preuve à l'appui est une série qui ne s'adresse qu'aux femmes, on va faire ça comme ça, alors peut-être, d'accord. Allez, maintenant dans un registre complètement différent. Alors toi, t'es un abonné à Free, si je ne m'abuse, donc ouais. Peut-être que t'as pas vu cette nouvelle chaîne.
Je tiens à signaler que c'était complètement improvisé.
Oui, tout à fait. Hein. La preuve, hein, c'est pas sur mon conducteur. Hein, tu l'auras pas sur mon conducteur, Thomas, désolé.
Je l'ai même pas, d'ailleurs.
Tu as abonné à Free, donc peut-être que tu n'auras pas cette nouvelle chaîne qui est apparue comme ça, mais dont l'écran reste noir. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une nouvelle chaîne, mais il n'y a que dalle, c'est tout noir et tout. Et pour cause, ça s'appelle Ma Chaîne Sport. Alors les abonnés,
c'est Numéricable qui est derrière.
Pour les abonnés de Numéricable, eh bien, on se pose des questions, on se dit ouais, ben d'accord, super, nouvelle chaîne de sport, mais il n'y a que dalle. Eh bien, c'est tout à fait logique vu qu'elle démarrera le 19 octobre prochain.
À noter d'ailleurs que Numéricable proposera aux autres opérateurs. Donc je risquerai de l'avoir.
Alors Numéricable le proposera aux autres opérateurs, mais en fait ce lancement donc aura lieu le 19 octobre avec le match de Ligue 2 qui s'appelle Nantes 3, parce qu'il faut dire que Eurosport qui a acquis les droits hein, de diffusion de la Ligue 2, eh bien on a revendu une petite partie à Numéricable qui va donc pouvoir diffuser également des matchs de Ligue 2. Mais il faudra savoir donc que Ma Chaîne Sport diffusera donc le vendredi soir un match en direct, puis deux autres matchs en différé. Entre autres, hein, il y aura également des décrochages régionaux, parce que bon, Numéricable, c'est un truc qui marche par région. Et il y a également, peut-être à moyenne échéance, parce qu'il faut savoir que d'ici un mois, deux mois, il y a une grosse bataille en ce moment, hein, par la grosse chaîne et la ligue de football professionnel interposée. Il y a un gros combat pour savoir combien ça coûte le fric de la Ligue 1, hein. Alors bon, bah il y a des chiffres énormes, on se rappelle des 600 millions qu'avait payé Canal.
Canal+ a dit on va pas débourser autant cette fois.
Voilà, donc
ce qui pose problème parce que c'est 60% des budgets de la Ligue 1, ça.
Oui, non, mais d'un autre côté, du côté du football professionnel, on dit ouais, ça vaut 750 millions maintenant. Alors tout le monde rigole. Il faut savoir que il n'y a pas que la Ligue 1 qui est en jeu dans cet appel d'offres, hein. Il y a également la Ligue 2, puis tous les trucs affiliés, à savoir la diffusion de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, enfin tout ce qui est le football en fait, hein. Il faut savoir qu'il y a également d'autres petites chaînes qui commencent à venir se greffer aux grandes et qui commencent à rafler des petites parts de marché, hein. Il faut dire que par exemple
W9,
on peut suivre des matchs de Coupe de l'UEFA, on peut également suivre sur Paris Première, Direct 8 également est sur le coup et va diffuser tous les matchs du Bayern de Munich en Coupe de l'UEFA. Hein, ils ont accueilli l'exclusivité pour les matchs du Bayern. Hein, on a pu voir le match du Bayern de mardi dernier.
Tu m'étonnes, ils sont super favoris la Coupe de l'UEFA, donc c'est bien.
Ouais, y a pas
comme
que,
ça, ils vont suivre jusqu'à la finale.
Y a pas que, hein, y en a d'autres hein, quand même. Hein, attention.
Bah t'as vu tous les clubs italiens qui se sont fait dézigouiller là.
Oui, ouais, mais bon, il reste pas mal.
Si TF1 l'exclusivité de la finale de la Ligue de l'UEFA et les autres ont Bayern. Enfin, ça commence à être le foutoir là sur la gestion des droits.
En tout cas, ça risque de bien bouger hein, dans les semaines qui viennent, enfin dans les mois qui viennent. D'ici fin novembre, de toute façon, on devrait être fixé au niveau de la redistribution, on va dire, des droits télévisés en ce qui concerne le football. Voilà. Revue de presse à présent avec l'apparition du nouveau numéro du cahier de football et qui est cette fois consacré au vert, avec les rubriques habituelles bien sûr, et surtout alors un truc assez marrant quoi, avec trois équipes composées par la rédaction de Cahiers du Football. Alors il y a la Dream Team de Saint-Etienne, la Nightmare Team de Saint-Etienne et la Chouchou Team. Alors du côté Dream Team là, bon moi je suis assez d'accord hein, parce que bon ça mélange toutes les époques. Hein, alors certainement des joueurs que toi t'as jamais connus. Hein, Keita par exemple, ça doit pas te dire grand chose. Hervé Revelli, ah ouais là c'est déjà un peu plus récent. Mekloufi là c'est vraiment dans les années 60. Platini bien sûr. Finduno, ça c'est un des seuls, c'est le seul joueur dans la Dream Team en activité hein, dans cette équipe de Saint-Etienne. Moravcik, ça on s'en souvient bien. Jean Vion, Sagnol latéraux, Piazza et Blanc comme défenseur central avec Kurkovic dans les buts, ça c'est tout à fait évident. Et du côté de la Nightmare, non j'ai même pas envie d'en parler, c'est dégueulasse pour eux quoi de toute façon. Enfin bon, ouais non on va pas le dire.
Bah si, allez.
Francis Liasser qui a joué à Saint-Etienne, hein, Garrido, Baudry, on s'en souvient même pas, Rodrigão, Luovi, on s'en souvient un petit peu, Kuka. Hein et Lamine Sacco.
Dans cette émission, il y a deux types de blagues. Voilà. Il y a les blagues de geek et il y a les blagues de foot.
Ok. Tout ça dans le nouveau cahier du foot, dans le SoFoot. Je l'ai pas encore lu, alors tu me piques pas. Je viens de le recevoir ce matin, quoi. Dans le nouveau numéro de SoFoot, le titre c'est Putain 20 ans et c'est consacré aux footballeurs qui à 20 ans, eh ben sont déjà des cakes et font déjà vachement parler d'eux. Les rubriques habituelles, bien entendu, tout ça dans le nouveau numéro de SoFoot que j'ai pas eu encore trop le temps de feuilleter. Par contre, il faut savoir
que j'ai eu le temps de finir Le Monde, moi, depuis ce matin.
Il faut savoir que sur le site de SoFoot, eh bien, il y a. Alors, si vous allez sur le site de SoFoot et sur le site de SoFoot, il y a plusieurs rubriques et vous demandez SoFoot TV. Et sur SoFoot TV, vous avez également plusieurs rubriques, dont la rubrique Les Petites Vélinas, avec plein de petites vidéos qui concernent les copines de footballeurs, les femmes de footballeurs.
Ils en parlent tout le temps dans le magazine,
très peu vêtues.
Et on les voit jamais.
Et là, eh bien, tu les vois, et des fois en action, et c'est vraiment des fois du bon X.
D'accord.
Voilà.
SoFoot.com donc.
SoFoot.com donc. Vous tapez sur la rubrique SoFoot TV et là c'est la rubrique Trash and je sais pas quoi, Trash and Baston. Il y a également des vidéos aussi de. Il y a également des vidéos aussi de des actions les plus cons ou les mecs qui se cassent la gueule sur le terrain, des trucs
génial.
Comme ça. Ouais tout ça donc dans SoFoot TV donc sur le site. www.sofoot.com.
Ça va Xavier, tu t'ennuies pas trop à côté?
Non, mais il dit rien, mais tu vas voir qu'il va rentrer chez lui, il va directement aller sur le site. Non, je t'assure, il y a des trucs
Non, mais c'est pas
alors,
ça.
Il y a des images, ça fait un peu fashion TV, hein, parce que la plupart de ces nanas, ce sont des nanas qui sont mannequins et tout ça. Alors donc, si vous regardez fashion TV tard au soir et tout, quoi, il y a également des trucs qui sont un petit peu moins 16, hein, comme ça, où elles feront des shootings photos un petit peu déshabillées, voire franchement déshabillées.
Smile.
Mais là,
don't
bon,
smile.
Bah, il y a également,
il
y a également les vidéos personnelles, tournées par, le téléphone portable de la petite copine en pleine action. Donc ça dépote de temps en temps quand même. Dans le numéro 2 d'épisodique, l'excellente revue d'Alain Carazé, eh bien là la première était bon un petit peu dur à suivre parce que bon c'est un numéro 1 et que bon bah faut vraiment suivre, faut vraiment être intéressé par les séries. C'est un petit peu un fourre-tout on va dire quoi, c'était pas trop structuré, là c'est vachement plus structuré. La première partie, eh bien c'est une grosse partie en ce qui concerne les screenings. Et on se met carrément dans la peau.
Attends, tu peux me le refaire avec la voix de la mort là, redire le mot.
Les screenings. On se met carrément dans la peau d'un acheteur d'une chaîne française qui va à Los Angeles dans les différents studios pour acheter les chaînes, pour acheter les programmes qu'il va diffuser la saison suivante. Et il explique comment ça se passe et tout. Bon, ils sont maqués. Alors bon, il faut savoir que si t'achètes ce gros programme, eh ben tu vas prendre tant d'heures de séries qu'ils ont également à bazarder.
C'est un pack.
Très 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 bien expliqué.
C'est le principe des sorties techniques au cinéma.
Voilà, ouais. C'est très 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 bien expliqué, avec également quelques previews en ce qui concerne les nouvelles séries qu'on va pouvoir voir sur les chaînes françaises, avec déjà un article sur la grosse déception d'une nouvelle sortie qui était vachement attendue, c'est Bionic Woman.
Ah oui.
Et ouais, qui paraît-il n'est vraiment pas bien du tout. C'est vraiment les grosses bollocks, quoi. Mais il y a également de bonnes surprises. Un article sur les polars français, le polar à la française du 9 et du 9 très intéressant à venir. C'est pas un euphémisme. Il y a également un article sur les séries historiques. Alors là, bon, bien sûr, on nous parle de Rome, qui est le carton que HBO a réussi à produire, mais également un gros article sur ce qui a fait le fleuron de la télé française dans les années 60 et dans le début des années 70, à savoir également les séries historiques. On se rappelle la première version des Rois Maudits, on se rappelle Belphégor, les Compagnons de Jéhu, tout ça. Enfin bon, c'était vraiment vraiment de la télé haut de gamme, on va dire.
Série La Fronde.
Et également avec l'Épiscope TV, à savoir toutes les séries qu'on peut regarder en ce moment à la télé ou qu'on va pouvoir bientôt voir à la télé. Avec des bonnes critiques, moi j'aime bien parce que je suis assez d'accord avec Brother Root par exemple, assez d'accord. C'est très intéressant, mais il y a vachement de longueur, ça en devient chiant quoi. Mais bon, c'est quand même pas mal quoi. Le sujet est intéressant, mais c'est hyper chiant. Bon, je vous lirai pas ce qu'ils disent à propos de Prison Break, parce que je pense exactement la même chose, mais c'est vachement dur quoi.
Ah, ils s'en fait défoncer par DVD Rama là, la saison 3 de Prison Break.
Mais là, je t'explique pas ce qu'ils leur mettent là, c'est fou. C'est dur quand même. Et il y a également un petit truc sur le fil, l'excellente nouvelle série policière de France 2 tous les vendredis soirs en prime time, donc qui est en fait une mini-série que 6 épisodes qui sont tournés pour la première saison. Alors différentes enquêtes qui sont soit résolues soit pas à chaque épisode, et avec un fil rouge
qui va
durer du premier jusqu'au sixième épisode, c'est-à-dire une autre enquête qui va vachement plus longue. En fait, ils reprennent une vieille enquête qui avait été mise un petit peu comme ça en débarras, l'histoire d'un serial violeur et tueur qui
encore
s'appelle Le Pianiste, mais ça peut être pas mal parce que paraît-il le dénouement te laisse un petit peu sur le cul quand même. C'est assez bien interprété quand même. Bon, il y a beaucoup de cliché dans cette série, c'est-à-dire le flic alcoolo, le jeune qui pète le feu, qui est érotomane, qui fréquente les partouzes, enfin bon, les boîtes échangistes et tout, le petit bleu qui est là, qui sait pas s'il va poursuivre sa carrière, le vieux qui fait du Michael Chiklis à fond les manettes, qui castagne les prévenus, et le patron qui est là, qui ne sait pas trop ce qu'il fout là, qui débarque donc dans cette unité pour être le patron de cette unité, et qui lui veut que les choses soient carrées, claires et tout. Ça ressemble un petit peu au canevas de The Shield, mais c'est traité à la française et tout. C'est tourné de manière vachement intelligente. Alors il n'y a pas les espèces de plans de raccord comme ça, tu sais, sur des vues d'immeubles ou de situations, le truc pompé dans NYPD qui avait été fait l'ancienne série PJ là, que t'as tout le temps là, les plans de raccord là, sur des immeubles, sur des vues.
Et ça, tu le vois partout maintenant.
Oui,
disparu, alias.
C'est là la première fois qu'on avait vu ça, c'était dans NYPD, donc en 93. Tu vois, ouais, ça remonte quand même. Et ben maintenant, bon, ok, c'est un gimmick. Là, y a pas, non, c'est bien rythmé et tout. Il y a un générique assez intéressant avec une musique tango qui est rigolote et tout. Bref, ça vaut le coup. Ça se laisse vraiment très très bien regarder sur le fil. Donc c'est sur France 2 tous les vendredis soirs. À présent, des séries maintenant, et puis je vais pas en faire beaucoup, mais il y a de l'inédit, et là il y a de l'inédit qui va certainement dépoter. Et putain, j'ai oublié l'interview, voilà, j'ai vraiment les boules quoi, parce que c'est l'interview de James Woods à propos de cette série, cette nouvelle série qui s'appelle Shark, qu'on va pouvoir voir à partir de demain soir sur Paris Première. Shark, créé par Jan Biederman pour la chaîne CBS, Jan Biederman qui nous a déjà fait Chicago Hope entre autres, et qui est l'un des co-créateurs avec Tim Kring de Preuve à l'appui, donc pas n'importe qui, et qui a récolté plusieurs refus au moment de présenter sa mouture de Shark à d'autres networks, mais CBS a quand même pris le concept en sachant pas trop et ça a l'air de bien marcher. Shark, en fait, c'est l'histoire de Sebastian Shark, interprété par James Woods, donc personnage principal, qui est avocat. Alors, les séries avec avocat, on a déjà eu, on veut pas dire à l'appel, mais il y en a quelques-unes qui ont plus ou moins bien marché. On va dire The Practice pour la plus connue. Il y a également Dick Wolf qui a fait New York Cour de Justice, qui n'a pas marché. Bien d'autres qui sont un petit peu plus anciennes, hein. On va parler de Raymond Burr, c'est-à-dire comment il s'appelle là, bien connu. Bref, c'est pas grave. Shark renouvelle un petit peu le genre parce que là il s'agit d'un avocat, James Woods, qui en fait va tourner Kazakh. Au début, eh bien, il est avocat, c'est-à-dire il défend les opprimés, les préjugés, présumé coupable et tout, et à la suite d'une affaire que qui se passe très mal et tout, où il perd, et ben il se décide de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du procureur, celui qui attaque, celui qui cherche à niquer les mecs à fond les manettes et tout, et là il va se révéler vraiment très très efficace. Faut dire que Shark, Sebastian Shark est un anti-héros à la même manière, c'est un beau salaud à la manière du Dr House, c'est pareil. C'est un type qu'on peut pas apprécier, c'est un type qui va vraiment être dégueulasse du début jusqu'à la fin, mais qui a sa motivation propre, qui a son trip personnel qui est tout à fait respectable quand même. Aux côtés de James Woods, on a également Jerry Ryan, Samuel Page, Alexis Cruz et Sophina Brown pour les rôles principaux. Il faut dire que le pilote, qui demain soir est diffusé à 20h50, L'étoffe d'un héros, a été réalisé par un certain Spike Lee, qui doit être un peu connu dans le monde du cinéma quand même, et qu'il y aura deux épisodes donc demain soir, hein, sur Paris Première à 20h50. L'étoffe du héros, donc réalisé par Spike Lee, est une question de confiance. Et Paris Première a décidé de cartonner à fond les manettes, car juste après Shark, eh bien, une nouvelle série, également une mini-série, car il n'y a eu que 6 épisodes tournés durant la première saison, c'est une deuxième saison, est en tournage. Il s'agit d'une série espagnole nous ramène un petit peu à un petit peu le même genre de série que Esprit Criminel, à savoir Genesis en el la mente del asesino, c'est-à-dire dans l'esprit des criminels, mais c'est traduit Genesis, l'origine du crime, et c'est également basé sur une enquête sur une équipe de profileurs, de gens qui cherchent à savoir comment fonctionne le cerveau des assassins pour pouvoir mieux les traquer. C'est espagnol, c'est tout récent, hein, ça date de l'année dernière, 2006, 6 épisodes donc par saison, et 9 téléfilms par saison, et c'est proposé donc demain soir sur Paris Première, juste après les deux épisodes de Shark, à 22h30, avec les deux premiers épisodes. Autoportrait, qui est quand même moins 16, alors bon, ça veut dire que c'est un peu trash quand même beaucoup, et Les larmes de Raimis, qui est moins 12. Genesis en la mente del asesino, donc après Shark sur Paris Première demain soir à 20h50 et 22h30. Ensuite, là je t'ai pas dit de mettre le générique, ton générique favori, parce que sinon j'aurais cassé le cou et tout. Il s'agit de Torchwood, qui sera diffusé à partir de vendredi prochain sur NRJ 12.
Hein?
Et Torchwood, en fait, eh bien, si vous prenez les lettres, eh bien, c'est tout simplement l'anagramme de Doctor Who.
Bah, en fait,
en anglais.
En fait, il y avait un tel buzz autour de des rumeurs comme quoi la série se relançait, que quand l'unité de production qui est au Pays de Galles envoyait les bandes à Londres pour éviter que ça soit intercepté par une raison X ou Y.
Ouais, pour éviter les piratages, en fait.
Ils ont marqué Torchwood dessus, ils ont fait un anagramme. Ils ont trouvé ça tellement marrant qu'à la fin de la première saison, ils ont dit, tiens, on pourrait en faire un élément.
Voilà. Et voilà. Donc, eh ben, ça a donné un spin-off, c'est-à-dire une série dérivée, créé par Russell T. Davis également, hein, le créateur de la nouvelle mouture de Doctor Who.
Et surtout, Clear as a Fork.
Et qui, en fait, Torchwood, eh ben, c'est un petit peu la base qui est à l'abri dans un trou spatio-temporel qui sert, qui est la cellule, hein, de jeunes agents qui protègent, en fait, l'humanité des invasions extraterrestres. Avec, bien sûr, eh ben, des personnages qu'on a déjà vus dans Doctor Who. Hein, Jack Harkness, entre autres, hein, interprété
immense.
Par John Marrowman. On y retrouve dans Torchwood Eve Miles, Naoki Mori. Alors elle, c'est la japonaise qu'on a déjà vue dans Abfab. C'est la copine, la copine de la gamine. Voilà, donc Naoki Mori. Il y a également Gareth David Lloyd et Bernd Gorman, qui est le scientifique de cette cellule d'agents, donc qui est chargée de contrecarrer les invasions extraterrestres. Alors c'est un petit peu plus violent, c'est un petit peu plus
c'est beaucoup
policier,
plus noir, hein.
Beaucoup plus noir que Doctor Who.
Ça passait vraiment beaucoup plus tard d'ailleurs. Hein.
C'est tourné au Pays de Galles, à Cardiff.
À Cardiff. Il se passe rien à Cardiff.
Ouais, il se passe beaucoup de choses à Cardiff. Et c'est donc diffusé à partir de vendredi prochain sur NRJ 12. C'est ça la, quand même la surprise, parce que bon, c'est quand même du haut de gamme, parce que au départ c'était diffusé comme une série spin-off sur la BBC 3, mais vu le succès que ça a rencontré, eh bien une fois que c'était diffusé sur BBC 3, c'était rediffusé un petit peu plus tard sur BBC 2, hein, donc ça veut dire que bon bah ça a bien marché et c'est en passe de devenir une bonne série qui cartonne bien outre Channel, mais qui va peut-être faire les choux gras de NRJ 12, hein, qui là sur ce coup-là a bien flairé un petit peu le coup.
Ouais, c'est ça qui m'inquiète, c'est que ça est NRJ 12, c'est chaîne pour ado, donc ce sera doublé.
Oui, bon, ben ça.
Sans V. La...
Oui, ben ça, on peut espérer un rachat ou un prêt à une autre chaîne qui aura l'intelligence de diffuser la version originale.
Ouais,
on sait jamais.
Je crois qu'on va plutôt se rabattre sur les coffrets.
Ben voilà. Mais pas le coffret édition française.
Ah, ça finit.
Ah non.
Fini. France Télévisions a fait une catastrophe avec les Docteurs Who.
Ah non. Alors, au niveau des inédits, c'est tout. Inédits, si, quand même, mais il s'agit de saisons 2 ou 3 ou 4 ou 5. Dans le deuxième épisode de Bones, vendredi prochain, qui s'appelle L'Épouvantail, c'est-à-dire aux alentours de 21h40 sur M6, là, quelques petites apparitions remarquables, dont l'apparition du papa de Bones. Ah, bon, on savait pas qui c'était, interprété par Ryan O'Neill. Souvenez-vous,
oui,
Peyton
Place. Barry Lyndon.
Peyton Place.
Non.
Non. Peyton Place, c'est un vieux soap anglais qui a commencé en 1964, noir et blanc entier, dont on voyait Ryan O'Neill tout jeune, hein, vraiment tout jeune, quoi. Vraiment, Ryan O'Neill qui a connu son heure de gloire, et c'était avec le film
Love Story,
voilà, à la fin des années 60.
Et
on
le
voit dans cet épisode, L'Épouvantail, une apparition de Cathy Reich, qui n'est autre que la romancière qui a écrit les bouquins Bones à propos de cette anthropologue qui est interprétée par Bones, donc, et qui est également créatrice de la série, et qui fait donc une apparition dans cet épisode réalisé par un certain David Duchovny. Ça ira, donc c'est vendredi prochain, Bones, le deuxième épisode, donc à 21h40. Et alors, vous avez regardé CSI Miami mardi dernier, les gars?
Oui.
Parce que là, Horatio, il a vraiment les bollocks, quoi, tu vois.
Ah, il va suivre la crapule en Amérique du Sud.
Antonio Rias, c'était la fin de la saison 4, donc, hein, l'épisode qu'on a vu mardi dernier, fin de la saison 4. Mardi prochain, début de la saison 5, avec Horatio Ario.
Attends, mais tu veux dire
Horatio Ario.
Attends, ça fait déjà 5 ans qu'ils font du CSI Miami.
Ah,
je pensais que ça faisait que 3 mois. Non, 5. Oh putain.
Non, mais vu le rythme de diffusion et vu le bordel complet que c'est au niveau de la diffusion, bon, ben là, comme il y avait le mariage et tout, l'aventure amoureuse d'Horatio avec Marisol, ils étaient obligés de suivre plus ou moins linéairement ce qui se passait. Hein, heureusement, ça dure pas longtemps, quoi. Parce que sinon, ils auraient été vachement merdés. Donc, beau cliffhanger, hein, on va dire, hein, y a pas de problème, hein, fin de la saison 4.
Un
et tout,
cliffhanger de qualité.
Et là, mardi prochain, saison 5, le premier épisode de la saison 5 qui s'appelle Rio. Et Horatio va donc à Rio avec Eric Delco, le frère de Marisol, pour manger la mort de sa sœur. Parce que Antonio Rias, on le rappelle, hein, normalement, il aurait dû faire du trou à Miami. Vu tout ce qu'il a fait, hein, faut quand même pas déconner. Mais, comme il a balancé pas mal d'informations au FBI, eh bien, on a décidé de l'extrader, hein, pour lui filer un coup de main comme ça. Et donc, eh bien, Horatio, eh ben, va se rendre au Brésil pour se venger, vengeance.
Horatio, l'acteur qui ne joue que de trois quarts, face caméra.
Ouais. Mais attention,
avec la tête penchée,
au costard toujours impeccablement
voilà.
Coupé.
Et les lunettes
nickel.
De soleil.
Toujours lunettes de soleil.
Toujours replier la branche gauche en premier.
C'est pour ça que chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, ils sont obligés d'utiliser la lampe de poche. Même quand il y a plein d'éclairage et tout, c'est quand même lampe de poche, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué ça dans ces séries là. Même dans Las Vegas et tout, il y a plein de lumière et tout, mais les mecs ils ont quand même une lampe de poche.
Ah ouais, mais c'est une lampe de poche spéciale, ils éclairent que les preuves.
Pas au départ, c'est une lampe de poche normale.
Ouais, mais
et après ils mettent les filtres pour savoir s'il y a luminol et tout. Non, laisse tomber quoi. Alors c'est suivi, il y a donc 3 épisodes, un mardi prochain sur TF1, le premier Rio, donc le deuxième Les Infiltrés, qui est le deuxième de la saison 5, Et ensuite, le troisième, bah, c'est le numéro 6 de la saison 5. Comme ça, bon, bah, ok. C'est la programmation de TF1.
Oui, parce
c'est
que
mardi
l'épisode
prochain.
Est plus chaud ou plus hard.
Ouais, ouais, bon, faut quand même pas déconner, quoi. On termine cette semaine de télé avec bah une semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette rubrique là. Une semaine de télé sur une chaîne.
Ah très bien.
Ah, et ça tombe mal parce que là j'ai choisi une semaine de merde sur Syfy quoi. Les boules hein,
oh
parce que bon.
Attends, on va trouver les fonds qui vont avec alors. Mais vas-y commence.
Ça commence quand même pourtant bien parce que ce soir sur Syfy à 20h45, un film déjà vu mais toujours. Agréable à revoir, les Muppets dans l'espace, le David Hill de 99 avec Jeffrey Tambor, David Arquette et Andy McDowell. Le dimanche soir, c'est Star Trek avec à 20h45 trois épisodes de Star Trek Voyager saison 1 et à 23h20, à partir de 23h20, donc c'est DS9, Deep Space Nine, Star Trek, la saison 2. Là carrément, ils nous en balancent 5 de suite. Mais comme c'est en version en multilingue, y a pas de problème, hein, on peut se taper les VO, c'est bien. C'est Star Trek, donc c'est bien, y a pas de problème. Hein. Bon, moi je préfère Next Generation, mais c'est mon point de vue personnel. Hein. Lundi 20h45, l'excellente série Regenesis, la saison 1. Alors là justement, c'est bien parce qu'ils diffusent les épisodes 11 et 12 d'une série qui en compte 13 par saison. Et à partir du 12e épisode, c'est là que commence à apparaître cette fameuse ce virus de la grippe à Denver qui va carrément décimer pratiquement toute la ville. Et dans l'épisode 13, on se rend compte que c'est dû à une erreur de manip et que c'est David Sanborn qui est un parti responsable du fait que y a pratiquement
bah
toute
oui,
la ville
il
qui
avait
est infestée, quoi.
Il voulait absolument collectionner la grippe espagnole.
Voilà, la grippe espagnole qu'il allait déterrer sur un cadavre qui était au Groenland et qui était sous les glaces depuis 1917-1918, date de l'apparition de la première grippe espagnole. Hein, donc il voulait absolument avoir ce virus. Il l'a chopé, mais bon, bah le problème c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a peut-être également chopé et qui l'a disséminé. Et donc, ça va vraiment lui foutre les boules, mais ça on le saura que la semaine prochaine, donc dans l'épisode 12 hein, qui sera diffusé lundi à 20h45. Regenesis, suivi à 22h30 d'un film de George Romero qui est parmi les moins connus, on va dire, Martin, le film de 77. Donc,
mais qui est ressorti en DVD cette année, je crois.
Voilà, mais qui est quand même relativement intéressant. Hein. Martin, donc c'est lundi soir à 22h30, le film de George Romero de 77. C'est juste après le deuxième zombie, en fait. Hein. C'est un an après le deuxième zombie. Il est sorti
après ou avant, je sais pas.
En 76 ou en 78
Je sais plus.
C'est une année paire, hein, de toute façon. Mardi, c'est la soirée Blade, la série, avec un début de saison qui est vachement chiant. Enfin bon, on n'accroche pas du tout quoi, à la série. C'est un petit peu chiant. Ça va dans tous les sens. Et puis bon... C'est pas bon. L'interprète principal, Kurt T. Jones, est pas mal. Hein. Il remplace assez bien quand même Wesley Snipes. Mais au niveau des histoires, au niveau de la structure, c'est pas tellement ça. Et il faut attendre un petit peu la fin de la série, le deuxième tiers de la série, pour qu'il commence à y avoir une espèce de caractère mythologique qui fait le charme justement de ce genre de série avec les vampires et tout ça, quoi. Donc c'est à partir du deuxième ou troisième épisode de mardi prochain, ça commence vraiment à devenir intéressant, qu'on commence peut-être à suivre un petit peu Blade avec un petit peu plus d'intérêt. Bon, allez, dépêchez-vous parce qu'après il y en a plus de toute façon. Mercredi, ouais, super, 20h45, Cocoon, le retour de Daniel Petri avec Donna Metch et Steve Guttenberg. Mais c'est suivi à 22h40 d'un spécial Enki Bilal avec tout d'abord la diffusion à 22h40 du film Tico Moon.
Celui qui a été très mal distribué en France.
Ouais, de 96 avec Julie Delpy, Michel Piccoli, Marie Laforêt entre autres. À 0h30 après Tico Moon, un quart d'heure, un petit documentaire sur tout l'univers de Enki Bilal. Alors un quart d'heure, c'est pas assez à mon avis. Mais bon,
avec ces deux trilogies, dont une en tétralogie plus la chasse et tout le reste.
Laisse tomber. Dommage, et à 0h45, un deuxième, moi ce que je considère comme son meilleur, le Bunker Palace Hotel de 89. C'est son premier d'ailleurs. Premier long métrage, ouais, avec Trintignant, Maria Schneider et Carole Bouquet, entre autres. Jeudi à 20h45, Robocop, mais pas la série, les téléfilms canadiens. Là, alors là, c'est le deuxième. Il y en a eu quatre, interprété par Paige Fletcher. Enfin bon, tu vois pas tellement sa tronche. De toute façon, c'est Robocop. Hein. Et Maurice Dean Wint. Et vendredi à 20h45, bah tu vois, c'est on fait la boucle. Hein. Demain soir, ce soir, les Muppets dans l'espace. Et vendredi, un grand classique, mais enfin qui se laisse toujours regarder avec plaisir. En plus, en version multilingue, c'est génial. Hein. C'est vachement mieux. Qui veut la peau de Roger Rabbit?
Démodable.
Géant.
Ah oui,
vraiment,
okay.
Impeccable.
Pas
impeccable.
La trompette.
Non, tasse pas de suite professionnellement les feuilles. Normalement, on le fait sur le plan général. Donc d'abord, il faut revenir au conducteur. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Mais tout à fait, ma chose. Donc nous avons eu Xavier qui fait une faute de prononciation sur le titre Carmilla. Xavier qui fait une faute de prononciation sur l'auteur Yukio Urushibara. Et Xavier qui a fait une deuxième faute de prononciation sur le nom de l'auteur Yukio Urushibara. Comme moi d'ailleurs à l'instant. Xav qui m'a insulté en allemand. On a eu du film sur la pub, du sport qui analyse les coupures pub de preuves à l'appui, de la vidéo trash de femmes de joueurs sur internet, des screenings qui font peur et la semaine de Sifi Chanel.
Nom d'une campagne de publicitaire mondiale pour le nouveau yaourt à la merde de pigeon. Ils ont manqué tout ça.
Et oui.
Et l'émission précédente.
Et aussi.
Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission, l'émission précédente et de toutes nos précédentes émissions avec les chroniques écrites. Et aussi fouiller dans nos archives, laisser nos commentaires.
C'est Jaguar qui m'appelle.
Posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web. L'adresse est supplementweekend.tk, supplementweekend.tk sans accent ni tiré. C'est très facile et vous allez voir, vous pourrez y accéder facilement. La suite des programmes sur Radio FMR. 15h scène transmission, 16h le potager, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 19h on est chez nous, 20h la CTO expérience, 21h30 9 love. Et de suite du sport va vous expliquer que les côtelettes c'est meilleur quand c'est bien frappé, bien cogné avant. Ça c'est du sport avec la spéciale All Blacks France.
Nous recevons à l'instant un SMS de quelqu'un qu'on aime bien et qu'on a déjà reçu à cette antenne qui est Nils et qui nous dit qu'il sera au théâtre ce soir, une pièce qui s'appelle J'y suis, j'y reste à 20h30 à la Salvetta Saint-Gilles, à la salle Boris Vian. Désolé Nils, mais moi j'ai France All Black à la télé.
Et sinon, si vous souhaitez sortir en journée de 10h à 19h à Salle Mermoz, donc il y a le festival de bande dessinée en faveur de l'enfance handicapée, ce qui serait toujours intéressant d'y aller. Donc l'entrée est gratuite et en fait, si vous avez une dédicace, on vous demande de laisser une somme symbolique partant à partir d'un euro.
Oui, parce que bon, en matière de contre-programmation, on peut dire que France 2 fait très fort ce soir pour contrer le match France All Black avec la rediffusion de FBI Portée Disparue, l'épisode pilote ce soir.
Ah mince ! Dire que je comptais martyriser ma copine ce soir. Voilà, et ben, plan général sur le plateau pendant que nous tassons professionnellement les feuilles de papier. Donc, quand je dis martyriser, c'est les épisodes de Doctor Who. Allez, ciao, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine sur cette antenne et sur notre site internet 24h24.
Ciao.
Ciao.